Vous écoutez France Culture.
Bienvenue en territoire documentaire pour cette heure où surgit la question « Et si on changeait de rythme ?» Si par exemple, on suivait la suggestion du grand timonier, descendre de son cheval pour cueillir des fleurs ou partager la vie des ouvriers. Celles et ceux qui ont vécu 68 se souviennent du PCMLF, le Parti communiste marxiste-léniniste de France, GP, la gauche prolétarienne, VLR, Vive la Révolution, UJCML, Union des jeunesses marxistes-léninistes, ou encore GOP, la gauche ouvrière prolétarienne. Tous, pour beaucoup des étudiants, étaient rassemblés sous l'étiquette plus simple de maoïste. Pour la Fabrique de l'Histoire, Perrine Carvan s'est interrogée sur la façon dont ces militants révolutionnaires, surnommés les établis, ont abandonné études et carrières pour rejoindre en usine les ouvriers, analyse rétrospectivement leur action et comment ils ont pu être perçus par les ouvriers.
Ça venait d'une citation de Mao Tse-tung qui disait « Les étudiants peuvent rester sur leur cheval. »
Robert Linhart, ancien établi.
« Ou ils peuvent descendre de leur cheval et cueillir des fleurs, ou ils peuvent s'établir parmi les ouvriers. » D'ailleurs, j'ai toujours recherché cette citation, je ne l'ai jamais retrouvée. Je ne sais pas si on l'avait inventée.
Descendre ton cheval, si t'es un ouvrier. Ou comment l'usine a vu débarquer les établis.
J'étais OS, donc je montais des pièces et j'étais en chaîne aérienne et je travaillais les bras en l'air et je montais en fait des alternateurs, je crois bien.
D'un côté, il fallait accrocher les pièces à peindre et au retour, il fallait décrocher les pièces peintes. Voilà.
Il faudrait quand même connaître quelqu'un pour pouvoir en discuter qui trouve un intérêt quelconque à faire ce geste-là 244 fois dans la journée.
Fils de héros, de martyrs ou de collabos, ce sont des enfants de la guerre. Enfants de bourgeois, ils sont lycéens, étudiants ou professeurs, bref, de jeunes intellectuels promis à un brillant avenir. Alors, en théorie, les enfants devaient combler les espoirs de leurs parents, marcher dans leurs pas et prendre leur suite. Seulement voilà, finalement, tout ne s'est pas passé comme prévu. La politique, le militantisme, le gauchisme, l'idéalisme, l'utopie et le vent de la révolte ont sorti ces jeunes gens d'une route tracée d'avance. Au départ, tous communistes, marqués par la guerre du Vietnam et la guerre d'Algérie, déçus par l'URSS, ils choisissent une branche du maoïsme et décident de tout quitter pour devenir prolétaires et ouvriers. Ils guettent la révolution qui viendra du peuple et en attendant, ils travaillent à la chaîne, vivent dans des cités ouvrières pour prêcher la bonne parole, filer un coup de main et mettre le feu aux poudres. Ils resteront un mois, un an, parfois 10 ans et finiront par quitter l'usine. Alors on peut se demander comment les ouvriers, les syndicalistes, les travailleurs immigrés ont vu débarquer ces jeunes hommes et ces jeunes femmes, ce qu'ils leur ont apporté, ce qu'ils leur ont laissé et peut-être aussi pour certains, ce qu'ils leur ont pris.
Moi, je pressais des charnières automobiles.
Claire Brière-Blanchet.
Sur une énorme presse hollandaise. Et toute la journée, c'est, vous savez, le mouvement, la pédale, comme ça, toc, 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 toc. Surtout, c'était dégoûtant. On est dans l'huile. Vous commencez le travail. À midi, vos gants sont déjà fichus. Nous ne voulions pas nous ériger en maître de la classe ouvrière. On avait fait nôtre cette phrase de Mao qui était qu'on doit descendre de son cheval. On ne doit pas être un mandarin, on doit au contraire être au milieu des masses pour agir avec elles. C'est-à-dire leur donner l'idée que changer de condition un jour était possible. En mettant en scène des événements, ça pouvait être une occupation, une grève. On était d'ailleurs très favorable aux méthodes de prise d'otages de patrons, etc. De façon à ce que les masses ouvrières fassent l'expérience d'une première libération, en osant dire non. Et un de nos mots d'ordre favoris était « oser se révolter ».
Moi, j'ai vu des gens, des maoïstes qui travaillaient.
J'ai vu des professeurs qui étaient à la chaîne.
Farouk Khaldi.
Il ne le cachait pas. Il disait, je suis professeur maintenant à Belfort, mais maintenant j'ai pris le temps pour travailler chez Peugeot. C'était plus des intellectuels. Mais par contre, pour vraiment vivre de l'intérieur l'expérience d'un ouvrier ou d'un émigré, ils se sont, je ne dis pas déguisés, mais ils ont été obligés de rentrer dans l'usine pour travailler, pour voir comment les conditions des ouvriers. Et là, ils se sont rendus compte que c'était vraiment des conditions abominables. Et surtout, les émigrés, ils avaient les postes les plus dégueulasses et tout ça.
Ça se voyait très vite dans les conflits.
Michel Chemin.
Et on voyait très vite dans le discours... qui avait la tchatche, qui avait le discours un peu officiel, révolutionnaire. Donc ça se reniflait très vite, quoi.
Les établis, vous les appeliez comment ?
On les appelait pas. Ils étaient nous-mêmes.
Gilbert Valdez.
Certains s'étaient fondus dans les syndicats, nous ressemblaient. Même si on n'était pas d'accord sur certains aspects politiques de leur lutte, ils se sont fondus dans le mouvement ouvrier. En termes de combat, il n'y avait pas de différence.
Mais revenons maintenant à Flins chez Renault, où depuis 14 heures, les drapeaux rouges flottent aux fenêtres.
Nous avons appris que les ouvriers de Cléon étaient en grève illimitée. Ces ouvriers ont même séquestré le directeur.
Ça s'est fait spontanément quand on a appris la lutte de nos camarades de Cléon. Et atelier par atelier, tout le monde s'est mis en grève jusqu'à cet après-midi, où la grève était générale cet après-midi.
Si le gouvernement envoyait ses forces de l'ordre, CRS et compagnie, on ne pourra absolument pas retenir les gars.
Baissez les mains, camarades. La grève se poursuit à l'unanimité.
Et en 68, moi j'étais sur le terrain, j'ai fait l'occupation de l'usine.
François Mermet.
J'ai même un haut fait d'armes, j'ai retenu le directeur général pendant quelques minutes à la portière de l'usine. Et donc, ce qui m'a valu d'être écrit à l'encre rouge et qui m'a, en fait, bien barré pour longtemps. Donc, le lendemain de cet incident, alors que j'étais pressenti pour être passé régleur, c'est-à-dire adjoint chef d'équipe, j'ai été muté en horaire de tournée dans un atelier des tubes. L'atelier des tubes, c'était la pire punition à l'époque. Hein. Et là... En avril 69, la CFDT m'a demandé si je voulais être mandaté et j'ai été nommé. J'ai été le premier délégué syndical de l'établissement, de l'entreprise, Cycle Peugeot.
Mon parcours avant de m'établir a été celui d'une gauchiste française militante.
Claire Brière-Blanchet.
Très engagée. Je suis devenue pro-chinoise d'abord et nous sommes partis en Chine, nous étions trois. Pierre Blanchet, Pierre Rigoulot et moi-même, nous sommes partis en Chine, avons connu la Chine de la révolution culturelle. Nous avons été à l'époque complètement convertis. On avait vu des masses en liesse, etc. Et à ce moment-là, 68 éclate. Donc on participe à 68 de tout cœur. Et à la rentrée 68, nous décidons de devenir de véritables révolutionnaires. Donc la voie est tracée. Nous sommes maoïstes et désirons nous établir en usine.
Après mai 68, comme idéal, le combat dans les usines avait été mis en avant. Il y a eu des prêtres ouvriers, il y a eu des séminaristes, il y a eu un peu de tous bords qui venaient à l'entreprise. Et donc, il n'y avait pas de mésestime, il n'y avait pas de mauvais accueil à cette époque-là. Pour moi, de 68 à 76, on était dans une entreprise assez ouverte.
Et j'étais militant assez tôt.
Michel Chemin.
J'ai eu une conscience comme ça assez tôt, vers 15-16 ans. Donc j'ai décidé d'aller en usine. Je me suis retrouvé au S, dans une usine de caoutchouc, où j'ai été embauché le 3 mai 68. Et le 15 mai, on était en grève et je me suis fait licencier parce que en juillet, j'avais plus juste 2 jours de grève que 2 jours de travail. J'étais de sensibilité plutôt anarchiste, plutôt libertaire. Donc, par la militance avant 68, j'avais rencontré des étudiants de Nanterre, on discutait des anards qui allaient en partie fonder le mouvement du 22 mars. Donc, en 68, j'étais en relation avec eux. On se rencontrait, ils venaient devant l'usine parce qu'ils n'avaient pas le droit d'entrer dans l'usine parce que la CGT tenait bien les choses en main. Est-ce que c'était la révolution? Est-ce que ça allait s'achever en queue de poisson? Enfin, il y avait toutes ces interrogations-là aussi. Enfin, c'est posé le problème pour moi de retravailler, donc je voulais continuer en usine, surtout après mai 68. Là, j'ai choisi d'aller à Renault, Flin.
Bonjour, voulez-vous venir avec moi? Je vais vous présenter une petite merveille. Voulez-vous monter?
Car la victoire de notre combat d'aujourd'hui dépend non seulement de votre unité à vous, travailleurs.
Alors, allons-y. Regardez comme elle est facile à garer. Et voilà.
Dans sa majorité.
Je vous passe le volant.
Ce ne sont pas les minorités qui font l'histoire, ce sont les peuples.
Je suis parti du mythe de Flin qui en 68 avait fait pas mal parler parce que c'était une occupation assez dure, il y avait eu un mort. Il y avait ça, il y avait le fait que c'était une classe ouvrière un peu nouvelle. L'usine était relativement nouvelle et c'était une classe ouvrière qui venait plutôt des campagnes, plutôt à la fois rurales et immigrées. C'était pas la forteresse de Billancourt avec une longue tradition. Il n'y avait pas de tradition de lutte et ça me paraissait intéressant d'aller explorer ça.
Pourquoi vous avez peur actuellement? Pourquoi vous avez peur que les Français s'expriment?
Jusqu'à maintenant, nous avons décidé de la grève ensemble. Nous sommes allés discuter avec la direction ensemble et nous devons continuer notre lutte ensemble. S'il y a un vote, il devra être fait ensemble.
Est-ce que vous pouvez nous le dire, Michel Chemin, nous parler des premiers établis que vous avez vus arriver
Si vous voulez, il y avait un malentendu. Entre moi et eux, il y avait un malentendu gigantesque. Eux, ils avaient envie de venir à l'usine. Moi, d'une certaine manière, j'avais envie d'en sortir, quoi. Et de ce malentendu sont nées des rencontres. Et il y avait plusieurs sortes d'établis. Il y avait des établis qui venaient vraiment pour apprendre d'une certaine manière. Et d'autres qui venaient pour donner des leçons. Et ceux qui voulaient donner des leçons, pour schématiser, c'était un peu la gauche prolétarienne, les Mao purs durs. Et les trotskistes, à l'époque, il y avait un groupe qui s'appelait Révolution, notamment, ou la gauche du PSU. À l'époque, il y avait une faction qui s'appelait Gauche ouvrière et paysanne, la GOP, et Vive la Révolution. C'était Mao, mais tendance libertaire quand même, quoi. C'était des gens qui venaient pour eux apprendre quelque chose, voir qu'est-ce que c'était cette mythologie de la classe ouvrière qui, soi-disant, détenait la vérité et la clé de tous les maux, ce que moi, j'ai jamais cru, quoi. Donc, on pouvait se parler, échanger, discuter. Ils étaient naïfs, moi, je l'étais aussi.
Ce qui s'est passé, c'est qu'on ne voulait pas reproduire l'expérience du PCF. C'est-à-dire une bande de permanents,
Claire Brière-Blanchet,
qui, par l'intermédiaire de la CGT, parce que c'était ça exactement, la CGT était le bras manœuvrant du PCF. Et donc la CGT faisait passer dans les usines et dans ses cellules les consignes du parti. Et nous pensions qu'un parti, un véritable parti révolutionnaire, naîtrait, mais en symbiose avec la classe ouvrière. Et à ce moment-là, on décide que pour le faire, il faut qu'on aille en usine, qu'on soit au milieu des ouvriers et non pas une bande d'avant-gardistes qui prétendaient détenir la vérité révolutionnaire. Nous avions tous un compte à régler, c'est vrai. Pour ma génération, c'est la Deuxième Guerre mondiale et la Shoah. Ça, c'est évident. Beaucoup de membres de la gauche prolétarienne, donc des maoïstes, étaient eux-mêmes de familles juives dans lesquelles il y avait beaucoup d'absents. Et alors, il y avait des familles aussi de résistants. Dans le fond, nous allions être, nous aussi, des résistants.
Madame, je suis très étonné, en passant à côté d'une machine-outil, de vous trouver attelée à un travail qui est véritablement un travail d'homme. Mais je dois dire tout de même que j'ai eu l'impression que vous accomplissiez cela avec des gestes d'une grâce toute féminine.
Non, je fais exactement comme un homme ferait. C'est ça, ou alors où voulez-vous aller travailler, c'est toujours pareil. On s'habitue à tout dans la vie.
Alors, est-ce que vous pouvez nous parler, Claire Brière-Blanchet, de votre premier établissement?
Alors, j'ai eu du mal parce qu'on était tous assez fichés. Parfois, on arrivait dans une usine et puis le soir, on nous disait « On sait qui vous êtes, nous ne prolongerons pas l'embauche ». Et j'ai réussi finalement à m'établir dans une usine de composants électroniques à la Thomson CSF à Grenoble. Donc, ça a été ma première expérience ouvrière, qui a été d'ailleurs très intéressante parce que ça n'était pas la classe ouvrière traditionnelle que nous avions en tête, qui était principalement les usines automobiles. Là, j'arrive dans une usine et c'était des toutes jeunes femmes, beaucoup avaient 20 ans, un peu plus, et totalement à la mode de l'époque, alors, pas du tout la classe ouvrière à laquelle je m'attendais. Enfin, je ne suis pas si naïve, mais pas la classe ouvrière pour laquelle nous avions élaboré toute cette idée du maoïsme libérateur. On retrouve face à des filles, alors en mini-jupe, c'était la mode, fleurie et tout, des talons compensés, c'était la mode des années 70, ça riait dans le car parce qu'on faisait des tournées, ce qu'on appelle les tournées, c'est-à-dire des équipes, on était en 2-8. Et qui parlaient de toutes sortes de choses, d'abord de leurs enfants, beaucoup se mariaient tôt, avaient des enfants tôt, et puis ça parlait maquillage, famille, enfin, c'était pas du tout un discours politisé, ni même syndicalisé. Alors je n'ai pas importé un discours maoïste orthodoxe, je me suis insérée assez naturellement. J'ai commencé à parler avec les ouvrières sur une question d'avortement. Parce qu'on avait mené toute une lutte sur le campus pour soutenir un foyer immigré. Et quelqu'un nous a aidés, qui était femme de ménage sur le campus, qui s'appelait Marie-Rose. Elle balançait des seaux d'eau. Et il se trouve que Marie-Rose avait avorté une fille. Et que ça avait fait un scandale dans Grenoble. Donc, les premiers contacts se sont faits sur cette question. Et ensuite, quand la grève a démarré, parce qu'il y a eu une grève qui a été lancée pour une augmentation de salaire, et il se trouve que la grève a eu un aspect très collège en folie, très marrant. Ça défilait sur la pelouse en crayon. Le directeur à l'époque s'appelait Gareto, donc Gareto Obino, parce que le travail Obino était très fatigant. Ce sont des micro-points de soudure. Les filles avaient vite des problèmes aux yeux. Et donc là, la grève est vraiment drôle. On saute, ça fait la farandole, etc. Et puis, en plus, c'était le printemps, donc c'était bien, il faisait beau. Et un jour, donc, meeting avec le dirigeant CGT, le discours CGT type. Ça suffit, les filles, on va reprendre le travail. À ce moment-là, nous, on crie « Mais ouais, pas question !» Et il nous tient un discours sur le thème « Vous êtes des femmes, vous ne savez pas ce dont vous parlez ». On se met à hurler, ça ne va pas. Et quand il y a les élections syndicales, donc ça se passe en septembre, la CGT est battue par la CFDT, qui devient le principal syndicat porte-parole des ouvrières. Donc c'était... On avait fait campagne pour la CFDT, finalement. Voilà, mais ça avait été quand même violent avec la CGT, parce que les délégués nous avaient coincés à deux ou trois dans les vestiaires en nous disant « Si vous continuez, on vous casse la gueule. » Et en nous serrant contre les armoires, très menaçant.
Écoutez-les, nos voix qui montent des usines, nos voix de prolétaires qui disent « Y en a marre, marre de se lever ». Tous les jours à 5 heures pour prendre un car, un train, parqué comme du bétail, marre de la machine qui nous saoule la tête, marre du chefaillon, du chrono qui nous crève, marre de la vie d'esclave, de la vie de misère. Écoutez-les, nos voix, elles annoncent la guerre.
Nous sommes les nouveaux partisans, francs-tireurs de la guerre de classe.
Alors, un excellent souvenir d'un camarade qui s'appelle Nicolas Asfeld, qui a milité à la CFDT et qui, lui, est arrivé dans l'entreprise comme OS.
Gilbert Valdez.
Et qui avait un bagage intéressant au niveau universitaire, mais qu'il avait caché à l'employeur. Et ce qui fait qu'il était embauché sur une chaîne de peinture. Et ce camarade, on a très vite vu qu'il renseignait ses copains de façon exceptionnelle, qu'il nous donnait à nous des infos, les syndiqués, les syndicalistes. Et on l'a recruté comme militant CFDT. Et ce camarade était un militant qui était venu faire un petit tour en entreprise, je vais dire ça comme ça, hein, pour simplifier, dans le cadre de sa formation militante politique. Et il était venu s'immerger en entreprise. Et on a fait, avec Nicolas par exemple, des combats magnifiques avec des travailleurs immigrés. La plupart parlaient français, mais n'écrivaient pas. Il avait cette capacité, lui, de les approcher et de leur faire parler, comprendre, traduire, etc., que nous n'avions pas forcément. D'autres militants ne se faisaient pas connaître comme étant des militants de parti. Alors, quand je dis parti, c'est peut-être groupuscule que j'aurais employé comme thème, parce qu'on connaissait, nous, les partis politiques traditionnels. Mais il est arrivé de partout, des groupes... Alors, la CGT disait, elle voyait des Mao partout, la CGT. Des gauchistes ou des Mao. C'était plus compliqué que ça. Hein. Il y avait des tas de gens qui se ressemblaient, mais qui n'appartenaient pas à la même cellule, qui n'appartenaient pas au même parti. PCMLF, PCR. Et on en a donc accueilli les bras ouverts dans les syndicats, et d'autres, on les a rejetés, parce qu'ils pratiquaient un type de lutte. Par exemple, les sabotages. Des sabotages avaient lieu régulièrement sur les chaînes de montage cyclo. En tant que syndicaliste, on n'était pas d'accord avec ça. Alors c'est un jeu de chat et la souris, parce que certains militants ont infiltré les syndicats comme la CFDT, et toutes les semaines, le vendredi, de 8h du soir à minuit en gros, nous nous réunissions, une trentaine de militants, et nous débattions donc de ce que nous avions fait dans la semaine. Et il y avait un contre-conseil syndical mené par certains de ces militants politiques, qui expliquait que la position syndicale qu'on avait débattue pendant 4 heures n'était pas la bonne et qu'il fallait, sur certains points, avoir une autre orientation.
Moi, j'ai connu en premier Nicolas Tzfel.
François Mermet.
Que j'ai rencontré sur son lieu de travail, donc à la chaîne peinture des échappements, avec qui j'ai entamé la discussion, qui était très ouverte. Moi, je n'étais pas dépaysé par le discours de Nicolas Asfeld. C'était quand même qu'il fallait établir une nouvelle société socialiste communiste et que donc il fallait, dans le prolongement de 68, il fallait aller beaucoup plus loin, quoi. Lui-même, donc, il s'est syndiqué et lui-même, il m'a aidé à organiser les salariés de sa chaîne. Il a aidé à provoquer des arrêts de travail pour... comme le disait Gilbert tout à l'heure, les conditions de travail étaient difficiles, il fallait essayer de freiner un petit peu la cadence de la chaîne, quoi. Hein. Donc dans les médias, c'était ça. Hein. Mais avec un discours plus loin qui emmenait vers un combat, une révolte contre la société capitaliste.
Gens qui étaient dans l'usine, ce qui était agaçant, c'était que souvent les maoïstes cherchaient toujours le conflit, cherchaient toujours à envenimer la situation, à ce qu'il se passe quelque chose, quoi.
Oui, mais sauf que ça, moi, quand je l'ai vécu, je trouvais ça bien. Moi, je me retrouvais dans ce milieu-là, contestataire.
Bruno Chira.
Travailler à la chaîne, c'était quand même pas quelque chose de très, très gratifiant. Quand je faisais des journées de 6 heures à la place de faire des journées de 8 heures, parce qu'on s'était mis en grève, j'étais tout content. Et puis quand on partait, parce qu'on était en grève, et puis qu'on allait voir un match de foot chez un collègue, à la place d'être enchaîné, j'étais content. Et pour un oui, pour un non, il y avait grève. C'était, le chef n'a pas dit bonjour, on s'assoit, on travaille plus. Jusqu'à temps qu'il vienne nous serrer la main. Ça existait. Mais je vivais chez mes parents, moi, je n'avais pas de loyer à payer, je n'avais pas de voiture. On gagnait bien chez Renault dans les années 70. On était payé 30 à 40% au-dessus de tout ce qui se faisait à côté. Quand je suis arrivé au service qualité, Et là, en fait, il y avait une personne qui avait une aura toute particulière. C'était quelqu'un qui parlait bien, qui avait une belle éloquence. On pouvait lui poser des questions, il répondait à tout. Quand il y avait des conflits, c'était lui qui était en avant, c'était lui qui était... Et finalement, on était tous sous le charme, en fait, de cette personne. Petit à petit, sont noués, en fait, des liens. Quand on se partait de l'usine, on allait chez lui pour regarder les matchs de foot. Moi, je sortais de l'école, je n'avais pas un niveau culture qui était très, très... J'étais fier d'être son ami, qu'il nous amène chez lui quand on allait voir. Et j'étais tout fier, parce que c'était quelqu'un, à mes yeux, de quelqu'un d'important. Alors, c'est vrai que j'avais 19, 20 ans, donc c'était quelque chose de particulier pour moi. Donc, et petit à petit, sont noués, en fait, des liens d'amitié. Mais il nous emmenait tout doucement vers une forme de syndicalisme, vers une forme de lutte. Moi, je connaissais lui, il y avait sa compagne de l'époque, qui elle travaillait à l'étage du dessus, donc sur le même bâtiment, qui avait à peu près la même influence, en fait, effectivement, chez les filles de la couture, avec le même type de procédé, c'est-à-dire convivialité, charme, en fait. Et après, on faisait le parcours, on était un petit peu guidés, quoi, je veux dire, en fait. Et quand on avait un leader comme ça, qui se mettait face aux responsables, aux plus hauts responsables de l'usine, et qui leur tenait tête, et dans le dialogue, et dans les écrits, et on était plein d'admiration. C'était le phare et les papillons, hein, avoir des gens instruits, qui venaient défendre des idées de gauche sur le regroupement familial, sur un certain nombre de choses. Mais c'est une usine où il y avait énormément d'immigrés. Et donc ils ont fait, au niveau des copains immigrés, ils ont fait énormément évoluer les choses.
En 1972, octobre 72, il y avait l'État tunisien qui, avec l'État français, ils ont fait un accord pour envoyer des ouvriers travailler en France. On est parti par une espèce de cargo. Et puis, quand on est arrivé, ils nous ont fait des projections de films de l'endroit où on doit dormir. Et c'était marqué Château Bornec. C'était dans la région de Belfort. Pour dire, voilà, des chambres particulières avec deux personnes. Et puis, on se trouvait à 8 ou 12 parfois. Et ça craquait de tous les côtés. Et il a le château que le nom. Et il ne nous changeait pas les draps. Et je me suis mis avec des copains de ma région pour dire, voilà, il faut qu'on fasse une action. Et on a appelé les journalistes. Les journalistes sont venus. Ils ont débarqué, les jeunes. Après, on a vu que c'était surtout des maoïstes. Et puis, ils nous ont donné un bon coup de main. Et puis, comment faire des tracts, comment appeler la presse, comment agir. Et après, on a lié des amitiés avec eux. Et puis, comme ils ont su que nous, on devait venir travailler chez Peugeot, ils nous ont dit, vous pouvez venir discuter avec nous chez nous à la maison. Et puis, eux, ils venaient chez nous, on allait chez eux. Et on a vu que c'était des gens corrects. À Sochaux, j'ai commencé à travailler sur la chaîne. J'étais ouvrier de montage, toujours la même chose pendant 8 heures. Pendant ce temps-là, moi, j'ai demandé à mon chef de pouvoir faire un stage en mécanique et puis travailler comme régleur ou avoir une formation. Il m'a dit, il n'y a pas de souci. Et puis un jour, je voyais des gens qui circulaient dans la ligne et puis qui hurlaient, ouais, on veut des sous, je ne sais pas quoi. J'ai dit, c'est quoi ça? On m'a dit, on fait un débrayage pour gagner un peu plus. Et j'ai fait grève. Et quand je suis rentré, mon chef il m'a dit, vous resterez toujours sur les lignes de montage et vous n'irez pas en mécanique et je ne ferai rien pour vous permettre de faire cette formation. Et il avait raison parce que je suis resté pendant 40 ans chez Peugeot, 38 ans, sur la chaîne de montage. Les gauchistes, les maoïstes en tout cas, après, ils nous ont dit, c'est à vous de s'organiser entre vous. Et puis après, nous, on vient avec vous, avec le matériel, avec les tracts, avec la presse, tout ça. Mais en plus, les meneurs, on va dire entre guillemets, qu'on était deux ou trois, ils nous ont proposé de nous envoyer en Bretagne pour faire des stages de formation et tout ça. À un moment, on s'est dit, dans le train avec mon copain, ils vont nous bourrer la tête, ils vont nous... Mais c'était une formation normale, comment on fait pour... s'attaquer à la police, si on est agressé, comment on répond, tout ça. Beaucoup de tactiques qu'on a appris avec eux. Et puis, on faisait des réunions, c'était strict, hein. Il fallait se lever le matin, prendre le petit déjeuner. Après, pendant 4 heures ou 3 heures, des débats. Et puis, il y a des gens qui venaient de toute la France, de Sud, de Nord, de Montbéliard, de toute la France, les gauchistes. Après, ils nous ont dit pourquoi il n'y aura pas un syndicat maghrébin fort, arabe ou bien immigré fort. Et puis, on fait un autre front contre les syndicats pour passer notre message à nous et pour prendre en compte les spécificités. Ce discours-là, il était très bien accueilli par les populations immigrées parce qu'il reflète un petit peu une vérité, parce qu'on se rend compte dans les syndicats, il y a des choses qui sont... S'il faut parler de conditions de travail, ça va, mais si on parle des logements insalubres, tout ça, là, c'est autre chose. Mais en même temps, on se rendait compte que c'était pas ça. Et puis, j'explique à mes copains de maoïstes, je dis, voilà, malheureusement, c'est utopique, on peut pas parvenir à diversifier le syndicalisme. Et puis, au contraire, c'est les patrons qui vont en profiter. On a dit, on ne marche pas dans cette combine.
Messieurs, bonjour. La fin de vos études est proche. Et vous pensez à chercher un emploi? Aujourd'hui, Peugeot vous offre cette possibilité. Que vous ayez votre CAP ou non, la possibilité d'avoir un emploi dans l'une de nos usines à Sochaux. À titre d'information, je peux vous dire que Peugeot est après Renault la deuxième industrie automobile française.
Est-ce qu'il y a des logements?
Bien sûr, à proximité de l'usine.
Est-ce qu'il y a des cantines?
Oui, bien sûr, des cantines, il y en a. Et le prix des repas est très modique. Vous avez également des réductions sur les voitures Peugeot et Renault. Et de nombreux avantages dans les magasins Ravi, sur l'essence, etc., etc.
Je me souviens d'avoir vu, on voulait discuter avec des ouvriers maghrébins dans un foyer. Il y avait des barbelés et des gardes armés. On n'a pas pu rentrer. C'était effrayant. Il y avait plein d'hommes qui vivaient soit dans des foyers, soit dans des cités. En tout cas, qui arrivaient d'ailleurs, parce que beaucoup de jeunes... trouver des contrats d'embauche Peugeot qui se portaient bien à l'époque.
Il y a des loisirs? Il y a des loisirs? Il y a des loisirs? Attention, il y a tout! De ping-pong! Tac, 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 tac! Ping-pong, flipper!
Et des femmes, il y en a?
Le bal, le bal, le bal, le bal, le bal, tatari, tatsan, pam, pam,
pam. Sochaux, c'était pas seulement l'usine, c'était tout le pays. Gigantesque, 30 000 ouvriers. Il y avait les constructions subventionnées par Sochaux et il y avait comme magasins et supermarchés une chaîne de qui s'appelait les Ravi. Donc on travaillait à Sochaux, on dormait Sochaux et on s'alimentait Sochaux. Et en outre, mais la désolation de l'endroit est à peine descriptible. Il n'y avait rien. C'était un désert. Il y avait l'usine et ses fameux rabis, quelques bistrots. C'est-à-dire, on ne sortait pas de ce qu'on était et de là où on était. Il y avait la classe ouvrière, point à la ligne. Et alors, j'arrive au lieu, dans l'appartement que nous avions trouvé pour nous loger, qui est dans une cité ouvrière, mais alors, une cité ouvrière, encore une catégorie en dessous, on était dans une cité très délabrée déjà, où vivaient beaucoup de travailleurs maghrébins. Et nous, on vivait essentiellement avec des familles ouvrières pauvres et des Yougoslaves. Et je suis arrivée au début de l'hiver. C'est tombé au moment où on me faisait mon procès, ainsi qu'à mon mari Pierre Blanchet, comme étant des dirigeants bourgeois, qui n'étions pas suffisamment actifs pour passer le pouvoir à la classe ouvrière. Ensuite, donc, on m'a demandé de partir à Sochaux. Donc, lorsque nous arrivons, je vois les sorties de tournée. J'ai des centaines d'ouvriers qui sortent. Et on arrivait avec nos malheureux tracts qu'on éditait chez nous, à la Renault vietnamienne. Il y avait de l'encre partout par terre à la maison. Et on arrivait là avec nos tracts en serbo-croate, en je ne sais plus dans quelle langue encore. Et le premier jour où je vais à la porte de l'usine, donc il est 5 heures du matin, je ne sais plus, il y a des ouvriers yougoslaves qui sortent et qui me mettent la main aux fesses. Et jamais je n'avais connu ça aux portes. Jamais. À Grenoble, c'est vrai qu'il y avait eu 68 de jeunes ouvriers, aussi les jeunes avaient participé. Il y avait énormément d'étudiants, il y avait des chercheurs. Tandis que là, c'était une population importée.
Vous pensez que c'est pour ça, Claire Brière-Blanchet, qu'au bout d'un moment, les Mao ont commencé à se pencher sur la question des immigrés, des ouvriers immigrés, qui finalement, eux, étaient les plus mal lotis et oui, peut-être les plus faciles à atteindre.
Et ceux qui, principalement, travaillaient à la chaîne. Les ouvriers français commençaient à être des ouvriers qualifiés. Ça, c'était une classe ouvrière éduquée politiquement. Alors que les jeunes immigrés qui arrivaient directement du bled. Et donc, n'avaient aucun préjugé syndical ou bon, une culture, pour beaucoup, spontanément tiers-mondiste, anticapitaliste, antipatron. C'est jamais drôle de travailler à la chaîne.
Et d'être envoyé à Sochaux, le choix de cet endroit, c'était aussi parce que Sochaux, c'était un endroit mythique, de par ce qui s'y était passé en 68, et c'était un peu le Graal.
C'était la base numéro un. Alors, cette histoire de base ouvrière numéro un était une énorme auto-intoxication de la gauche prolétarienne. Il n'y avait pas de base ouvrière numéro un. Quand je suis arrivée, j'ai vu quelques jeunes types qui sortaient de prison. Il y avait un militant qui lui arrivait de Dunkerque, poursuivi pour atteinte à la sûreté de l'État, mais il ne pouvait pas s'établir. Il y avait une fille, Janine Jay, qui était aussi là en tant que permanente, etc. J'avais zéro base ouvrière, rien. Et on a été immédiatement infiltré par un ouvrier que les RG avaient chargé d'espionner. Cela dit, il y a eu toute une lutte sur les foyers de jeunes travailleurs, jeunes célibataires, pour que le règlement soit assoupli. Il n'y avait pas le droit de recevoir de femmes, c'était étroitement surveillé. Et là, il y a eu un mouvement de grève. Les jeunes se sont mobilisés pour qu'ils aient droit à une vie un peu adulte. Or, ils étaient traités comme pratiquement c'était le pensionnat. Alors, je crois qu'il y a eu quelques assouplissements.
Je me souviens, en fait, des premières élections qu'il y a eu chez Renault et qui avaient été refaites parce que des gauchistes, en fait, avaient commencé à mettre des noms de salariés immigrés, en fait, sur les listes. Et ça, je crois que ça a été porté, en fait, par ces gens d'extrême gauche. C'est certainement leur première grande victoire, en fait, à ce niveau-là. Alors que moi, ma première élection, les noms étaient rayés. Dès l'instant, il y avait des noms de copains immigrés qui se présentaient. Ils étaient rayés systématiquement. Et donc, ça a été lancé en fait par les copains d'extrême gauche, en fait, sur cet aspect-là.
La direction, elle s'est bien aperçue que c'était les chaînes, en particulier en carrosserie et en boutissage, d'où partaient les grèves. Elle s'est penchée sur le problème et de là, en a tiré les conclusions qui l'a amené à placer les travailleurs sur les chaînes de manière rationnelle. Un Yougoslave, un Français d'origine paysanne, un Français de la région de Montbéliard, un militant, un non-militant, un autre Marocain.
Je sortais de l'école, je n'avais pas de notion ni de syndicalisme. Le milieu ouvrier, je le connaissais que par le biais de mon père. Donc je ne pouvais pas distinguer s'il y avait des gens d'extrême gauche ou pas. Mon père, à la maison, disait en fait les gauchistes. Et moi, chez moi, les premiers conflits sont arrivés comme ça, un petit peu avec mes parents. J'étais d'un côté, j'étais plus proche de la CFDT, en fait, parce que c'était un syndicat plus jeune, avec des militants plus jeunes. Je ne savais pas si c'était des gens qui avaient des diplômes, qu'on n'avait pas. Jusque dans les années 76, je crois que j'ignorais un petit peu tout, en fait, moi, des établis et des différents rouages du syndicalisme tel qu'il fonctionnait. Je l'ai su, en fait, dans les années 80. Quand moi j'ai vraiment intégré complètement le syndicalisme en devenant moi-même militant. Les gauchistes en fait qui étaient dans l'organisation syndicale, qui était la CGT d'ailleurs à l'époque en fait, ont été virés de la CGT par les communistes de l'époque et ont rejoint en fait le mouvement syndical par le biais de la CFDT. Donc on les a intégrés. Je me souviens en fait de quelques dires des gens de la CGT qui disaient qu'en fait c'était des gens qui avaient été introduits par la direction pour casser le mouvement ouvrier, qui étaient en fait des indics de la direction. Ça, je me souviens de ce type de reproches que faisaient en fait les militants cégétistes. C'était un combat politique, hein, c'était à qui casse à l'autre. Bon, il y avait les staliniens d'un côté, les gauchistes de l'autre. Alors effectivement, les mecs de la CGT disaient que c'était les gauchistes bourgeois, qui venaient d'un milieu bourgeois, qui n'avaient rien à voir avec le monde ouvrier. Il y a eu un conflit en 78 qui était très très dur, et qui était mené en fait par la CFDT et puis tous les gauchistes qui étaient à l'intérieur. Un combat qui avait été très très dur, et mon père travaillait aux presses. Et lui voulait reprendre le travail, moi j'ai empêché en fait un petit peu les gens de son secteur et d'aller travailler. Donc gros conflit, j'habitais encore chez mes parents, c'était le repas le soir, c'était assez musclé. Hein. Et voilà, mon père avait une vision quand même plutôt négative en fait de ces gens-là.
Il y a eu un moment d'engouement au début des années 70, de 68 à 72, dirons-nous. Hein. Un accueil de la CFDT à ces gens-là, assez ouverte. Puis, après coup, on s'est aperçu quand même que ces gens-là venaient pas que pour faire la révolution. Ils venaient peut-être pour faire la révolution, mais en prenant le pouvoir dans les syndicats. Ils venaient au conseil syndical, comme à Sochaux, et ils faisaient durer le conseil syndical jusqu'à 2h du matin sur la même question. Une fois qu'ils avaient pris la parole, ils ne voulaient plus la lâcher. Et donc, à l'époque, le PCF, il les chassait.
Et est-ce que vous diriez que les établis avaient une tendance, peut-être plus la GP, de la gauche prolétarienne, à pousser à la grève, parfois à inciter au sabotage ou à...
La GP, oui. Mais ils faisaient de tout et n'importe quoi, quoi. Enfin, bon, je suis un peu sévère, certainement, mais... Enfin, je ne pouvais pas les blairer, quoi. Parce que, justement, il fallait casser la gueule des petits chefs, fallait... Ils faisaient prendre des risques inconsidérés aux ouvriers. Et s'ils se faisaient foutre à la porte, ils étaient dans la merde noire, quoi. Il y avait cette sensibilité-là, quoi, de terre brûlée un peu. Dès qu'il y avait un conflit, il y avait une radicalisation du discours. Il y avait... Par exemple, ils étaient très anti-syndicalistes. La CGT, c'était quand même des crapules, quoi. Pour dire les mots comme ils sont, c'était un peu des staliniens. Enfin, j'ai pas des... c'est des mots durs, mais j'ai pas trop de respect pour les appareils. Hein. Pour les militants, c'est différent.
Le pouvoir est au bout du fusil. Vive la résistance populaire. Une seule chose à faire, nous faire vengeance nous-mêmes et le plus durement possible. C'est pourquoi nous disons, patron, c'est la guerre. Vous avez semé la haine, vous récolterez.
Je devais apparaître quand même un peu comme la planète Mars. Je ne suis même pas certaine de ce que les ouvrières aient compris ce qu'était le maoïsme. Nous, on avait vécu dans le culte de la résistance, la Commune de Paris, les grandes grèves ouvrières, les défilés de mineurs de l'après-guerre, etc. Bon, la classe ouvrière française était quand même... une classe ouvrière protégée, il y avait la sécurité sociale, il y avait des logements sociaux, et rien à voir avec, y compris, la classe ouvrière d'avant-guerre. Parce que tous les modèles révolutionnaires, marxistes, etc., ont été construits sur ce modèle-là. La grande civilisation industrielle du 19e siècle. On s'est trompé d'époque. On jouait encore dans Zola.
Je crois que leur naïveté, c'était de croire que... Un, l'usine, c'était le seul lieu où il pouvait se passer des choses profondes, fondamentales, révolutionnaires, entre guillemets. Mais... Et puis, il y avait toute cette mythologie du peuple qui détenait la vérité, qui savait où il fallait aller. On savait que la classe ouvrière était capable d'être réactionnaire, ils pouvaient taper leur môme, ils pouvaient se bourrer la gueule et taper leur femme. Enfin, pour moi, c'était pas révolutionnaire en soi.
Il y avait quand même, au départ, une tricherie énorme. Alors, la tricherie, elle n'est pas compliquée. Un jour, me dit Louisette, qui habitait mon immeuble aussi, Louisette me dit, mais quand même, Claire, le jour où t'en auras marre, tu pourras toujours partir, tu retourneras dans ta famille. Je comprends. Un jour, si t'en as assez, tu peux t'en aller. C'était presque comme si elle m'avait donné une gifle de me dire ça. J'étais tellement sincère. Enfin, c'est pas question, mais tu te rends compte. Enfin, qu'est-ce que tu dis ? Il n'empêche que quand j'ai eu un pépin à Sochaux, un soir, on était à Montbéliard avec mon mari, j'avais mon sac à main, mon manteau, et je dis à Pierre, tu sais quoi, on s'en va. On n'est même pas repassé par chez nous. On est monté dans le train, on est parti à Paris. C'était fini. Mais c'était fini aussi parce que on a eu une réunion un soir pour examiner l'idéologie défaillante de Pierre. Il y avait un jeune établi aussi qui était là. Alors pourquoi il n'y a pas de comité de lutte à Valentinier ? Comme si ça te... C'est parce que tu ne sais pas parler aux ouvriers. Ah, vous êtes allé au restaurant ? Il faut voir les restaurants qu'on fréquente. Est-ce que les ouvriers vont au restaurant ? Ben vous êtes allé au restaurant. Et ainsi de suite. Je n'étais plus capable d'affronter ça parce qu'on avait brûlé nos cartouches, on avait tout laissé derrière nous à Paris, nos amis, nos, comme on dit aujourd'hui, les carrières, etc. On ne pensait pas dans ces termes-là. En ce qui me concernait, j'aurais vraiment pu avoir un avenir d'universitaire. C'était plus question. Qu'est-ce qu'on allait faire ? Je pense que de toute façon, nous étions des tricheurs. Heureusement, on est la seule organisation gauchiste à s'être autodissoute en disant « ça suffit ». On a fait assez de sottises comme ça. Ce qu'on a écrit sur le patronat est indigne. On leur promettait de leur décharger le fusil dans le ventre. Et on voyait bien que, petit à petit, on aurait pu se diriger vers le terrorisme façon action directe.
Je ne suis pas persuadé que tous ceux qui ont été établis, en fait, tous ces établis de Flin, aient eu le même impact que Nicolas. Moi, je pense que c'est celui qui, dans les établis, certainement le plus marqué, en fait, le mouvement syndical. Je crois qu'il est parti en 80. Les gens qui l'avaient un petit peu formé à droite, à gauche, dans le truc, étaient déjà en place. La révolution, ils savaient très bien qu'ils n'avaient pas l'affaire là, quoi, je crois. Les travailleurs, ils n'étaient pas prêts à faire la révolution. J'avais quelqu'un, en fait, qui défendait mes intérêts, qui défendait, en fait, les salariés du secteur où je travaillais. Moi, j'ai jamais eu le sentiment qu'il m'ait menti.
Les vous garantit l'heure exacte au troisième top, exactement 13h. Lip, c'est l'heure.
Interactualité Magazine, Yves Mourouzi.
Les titres de cette édition de 13h, Georges Séguy à Besançon dans le conflit. Lip, nous irons jusqu'au bout. La négociation, dit le patron de la CGT, doit aboutir.
Vous avez su démontrer une nouvelle fois que si les patrons n'ont jamais pu et ne pourront jamais se passer des travailleurs, les travailleurs, eux, peuvent parfaitement se passer des patrons.
10h ce matin, chez Lip à Besançon, le premier stand de vente à l'intérieur de l'usine ouvrait ses portes. En dépit de la mise en garde lancée hier par les administrateurs contre l'illégalité d'une telle procédure.
Comment vous avez fait, Michel Chemin, pour quitter l'usine ?
Comment j'ai fait ? C'était très très dur à quitter parce que c'est... Donc j'ai mis beaucoup de temps et c'est la grève de 73 qui a été un échec magistral. Avec en parallèle le conflit LIP qui m'a décidé à quitter l'usine. Je suis allé à Besançon voir LIP qui démarrait à ce moment-là. Et je me suis retrouvé dans cette histoire de « on fabrique, on vend, on se paie ». Et puis, il y avait quand même une réflexion assez riche quoi, derrière, sur la non-violence, par exemple. Alors que le gauchisme, c'était coup pour coup. Quoi. Et moi, je venais de faire une grève qui était un échec cinglant. Quoi. Je me suis dit, il faut que je parte, quoi. Sinon je vais y lisser ma vie. Quoi.
Quand on se dissout, on est fin 73, début 74. Et 68 est passé, les enragés, comme disait le général, rentraient dans la vie active, commençaient à avoir des enfants. Il n'y a pas que les idées qui font le monde, il y a aussi que les gens sont des êtres de chair et de raison, heureusement, donc ils ont fait autre chose. Et puis, ce qui nous a envoyés au cimetière aussi, c'est LIP. On n'avait rien déclenché. C'était des chrétiens de gauche. Un père dominicain et un sédétiste chrétien de gauche qui avaient tout mené, tout, y compris ce qu'on appelle une action de partisan, c'est-à-dire s'emparer du stock de montres pour avoir un trésor de guerre. Tu n'avais pas un Mao dans le coup. Je me dis, bon, ils nous ont mis à la retraite, il faut arrêter.
Je pense que le bilan est plutôt positif, comme disait Marchais à une époque. Ça a apporté des choses. Ça a fait voir qu'il y avait d'autres choses qui étaient possibles. Ça a partagé des expériences que les syndicats n'auraient jamais diffusées parce qu'ils n'étaient pas habitués à ça. Ça a été une ouverture sur un autre monde, sur une autre sensibilité, sur... Ça bougeait beaucoup quand même.
Il faut savoir qu'à l'époque, les rapports entre la direction et les syndicats étaient très très difficiles. Donc le fait d'avoir des gens comme ça, qui avaient du bagou, qui savaient écrire, qui écrivaient des tracts... Moi, il me faut une heure pour sortir un papier, en 5 minutes de temps, ils sortaient un papier. Donc en fait, pour les ouvriers, c'était que du bonus. Moi, aujourd'hui, si je suis sorti en fait, du milieu ouvrier, je suis étame avec un certain nombre de prérogatives que je n'avais pas à l'époque, alors que j'étais en chaîne au départ. Je crois que c'est un petit peu grâce à lui, quelque part, en fait.
Parle au patron, ta tête est malade. Parle au patron, ta tête est malade. Oh, oh.
Merci à Claire Brière-Blanchet, Michel Chemin, Bruno Chira, Farouk Raldi, François Mermet et Gilbert Valdez. Extrait de film, les groupes Medvedkin à Flin, Sochaux et Besançon. Archivina, Aurélie Marsay. Prise de son, François Rivalan. Mixage, Pierrick Charles. Descends ton cheval, cité un ouvrier, Perrine Kervran. Véronique Samoulov.
Ne t'écoute pas, mon beau tout brillait, le cœur tout brillait, je t'entends crier. Chaque fois que tu veux ton autogestion, chaque fois tu sais bien ton affreux patron. Chaque fois t'entends pas, te prends pour un pion. Pour un pion. Parle au patron, ta tête est malade. Parle au patron, ta tête est malade. Oh, oh. Parle au patron, ta tête est malade. Parle au patron, ta tête est malade. Oh, oh. Chaque fois que tu veux de l'augmentation, chaque fois qu'on paie pas tes cotisations. Chaque fois tu t'en vas parler au patron. Au patron. Il ne t'entend pas, ne te comprend pas. Il ne te voit pas, ne t'écoute pas. Mon pote ouvrier, le cœur d'ouvrier, je t'entends crier. Chaque fois que tu veux ton autogestion, chaque fois tu sais bien ton affreux patron. Chaque fois t'entends pas, te prends pour un pion. Pour un pion. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh.
Merci à Perrine Kervran et Véronique Samouilov pour ce documentaire podcastable sur le site de L'Heure du Documentaire. Demain, Christelle Le Polothèque proposera, afin de changer de rythme, de tout quitter pour l'autre.